Chapitre 4. Les reprises d'amour ne font jamais feu qui dure. Entre Sophie et Laura Gay, ce ne fut qu'une reprise d'hostilité. Après une semaine d'adoration et d'extase, les batailles recommençaient de plus belle. Laura Gay avait le droit désormais d'être soupçonneux, il en abusa. Rien de curieux comme ses jalousies et ses justifications, scènes de tous les jours dans lesquelles tout le monde intervient, même le médecin. Il s'aimait ainsi, ne sachant ce qui leur était le plus intolérable, de la vie en commun ou d'une séparation. Mais quand malheur, qu'un accident advienne à l'un ou à l'autre, il n'est plus de grief qui tienne. Ils s'adorent, ils se le prouvent, et de nouveau les voilà réunis. C'est ce qui arriva dès l'année suivante, 1763. Laura Gay avait donné lecture à l'Académie d'un mémoire en faveur de l'inoculation. Il voulut le faire imprimer. L'autorisation lui fut accordée, mais à la condition de supprimer certaines personnalités fort blessantes pour l'avocat général Joly de Fleury. C'est à quoi Laura Gay ne voulut jamais consentir. Il entama une longue correspondance avec le ministre, parla, écrivit, se remua, fit tant qu'à la fin, ordre fut donné de l'arrêter. Des agents se présentèrent chez lui un matin, porteurs d'une lettre de cachet. Il entra dans une colère épouvantable et demanda à parler au roi. On lui répondit que c'était impossible, sa majesté étant allée court le cerf. « Eh, morbleu !» s'écria Laura Gay, « que ne le faisait-il arrêter aussi par lettre de cachet ?» Et s'estimant assez vengé par cette bénigne épigramme, il se rendit de fort bonne grâce. On le conduisit à Metz, où un logement lui avait été préparé à la citadelle. En apprenant l'arrestation de son amant, Sophie fut au désespoir. Elle ferma son salon et prit le deuil. Les larmes ne cessaient de couler de ses beaux yeux. Jamais on ne vit rien de si pathétique. Voisenon, qui écrit au prisonnier, lui peint cette grande douleur et le félicite d'avoir trouvé une maîtresse fidèle à l'opéra, bonheur insigne qui doit singulièrement adoucir les tourments de sa captivité. Il lui dit « Ne te plains pas de ton malheur. Du cœur de la Vallière, il te fournit la preuve. On assure qu'Arnoux se souvient d'être veuve et que de sa constance, elle fait son bonheur. » Elle fit plus, elle obtint la grâce du coupable, refusée aux pressantes sollicitations d'une famille puissante et de Madame de Laura Gay elle-même. C'était un soir de spectacle à la cour, elle avait été sublime dans le rôle de Céphise, de Dardanus. Profitant de l'impression qu'elle venait de produire, sans prendre le temps de quitter ses habits de théâtre, elle courut se jeter aux pieds de Monsieur de Choiseul. Les entrailles du galant et tout-puissant ministre s'émurent et il n'eut pas le courage de refuser à cette belle et éplorée Céphise le retour de son Dardanus. Laura Gay revint plus épris que jamais. Son amour se doublait de reconnaissance. Il s'installa chez Sophie, comme au premier jour de leur liaison, résolu, disait-il, à lui consacrer tout entière cette liberté qu'il lui devait. Dans l'enthousiasme du premier moment, il voulait même se séparer légalement de sa femme. Il n'en fit rien par bonheur, et sa jalousie ne tarda pas à se réveiller. Il aurait voulu pouvoir confisquer Sophie à son profit, l'enlever une seconde fois, l'arracher aux adorations de ses amis, aux applaudissements du public. Il enrageait de ses triomphes de tous les soirs, succès dans Psyché, succès dans Castor et Pollux, succès partout et toujours. Et les déclarations qui pleuvaient chez elle, les billets doux, les petits verres, jusqu'à Favard qui s'en mêlait. Oui, pour elle, Favard devenait sentimental et presque langoureux, et il lui envoyait ce galant madrigal. « Pourquoi, divine enchanteresse, me troubles-tu par tes accents? Tu me fais sentir une ivresse qui ne va pas jusqu'à tes sens. Peut-être que, dans ma jeunesse, mon bonheur eût été le tien. Je t'aime, et le temps ne me laisse que le désir. Désir n'est rien. Oh, tais-toi! Mais non, chante encore! Qu'avec tes sons voluptueux mon reste d'âme s'évapore et je me croirai trop heureux. » Laura Gay, cette fois, se lassa le premier. Les pirouettes de Mademoiselle Robet, une gentille danseuse qui débutait, lui avaient été au cœur. Il n'eut pas le courage de cacher sa nouvelle passion à Sophie. Celle-ci, il faut le dire, prit très philosophiquement la trahison et ne demanda à son amant que de la tenir au courant de ses amours. Il n'y manqua pas et elle devint sa confidente. Hélas, il n'était pas heureux, il avait des soupçons, il l'avouait à Sophie. Il ne pouvait mettre les pieds chez sa nouvelle divinité sans y trouver un certain chevalier de Malte qui l'offusquait fort. « Un chevalier de Malte ?» disait Sophie. « Vous avez bien raison, monsieur le comte, de craindre cet homme-là. Il y est pour chasser les infidèles. » Lauragais n'attendit pas qu'on le chassât. Il se retira, jurant que les danseuses ne l'y reprendraient plus. Il comptait sans les jambes de mademoiselle Hennel. Cette brillante étoile de la danse lui fit oublier toutes ses mésaventures. Elle était digne de tous les hommages, admirablement jolie, ses débuts avaient été un triomphe. C'est dire que l'amoureux Lauragais fit noblement les choses. Meubles exquis, chevaux, carrosses, contrats de rente, il combla mademoiselle Hennel. Il combla aussi, par la même occasion, un frère qu'elle aimait beaucoup. Là, il ne trouva pas le chevalier de Malte, mais, en retour de tous ses bienfaits, la belle danseuse le gratifia de certains présents qui lui valut le surnom de prince de Galles. C'était à guérir de toutes les démangeaisons d'inconstance. Sophie, de son côté, n'était pas plus fidèle. Depuis longtemps, elle avait pris à la lettre les conseils de Dora. Crains de serrer de nouveaux nœuds, toujours folle et toujours tranquille, laisse serrer ton cœur et tes vœux. Ton amour ferait un heureux, ton indifférence en fait mille. Donc elle laissait errer ses vœux à l'aventure et faisait beaucoup d'heureux. Elle avait ouvert à deux battants les portes de son cœur et une longue, une infinie procession y défilait. La noblesse et la finance, dit la correspondance secrète, la magistrature et l'académie, la ville et la cour. C'est le prince de Condé dont elle a une fille qui plus tard épousera le comte de R. C'est le duc de Nivernais qui, un jour chez elle, se prend de disputes à propos de Gluck. Puis Durfort, le fils du duc de Duras, l'amant de mademoiselle du thé. « À Durfort, il faut du thé », dit la chanson. Il fut exilé, celui-là, pour ses déportements. On se demande ce qu'il avait pu faire. C'est encore le marquis de Villette, ami de Voltaire de profession, le marquis de Bièvre, l'assommant auteur de la comtesse Tassion, le prince des Nains et bien d'autres encore, Rullière, Beaumarchais, Bélanger, Florence, la liste serait interminable. Mais après chaque couplet de la folle et amoureuse chanson, Sophie Arnoul revient encore à Lauragais, son éternel refrain. Reparaît-il cet amant adoré ? L'heureux du moment doit lui céder la place, et s'il ne la cède pas assez vite, Lauragais a des moyens à lui pour chasser l'importun. Ainsi, il renvoie le marquis de Villette, qui devient la fable de tout Paris. L'ami de Voltaire se fâcha bénignement. Il était homme à verser 40 écritoires sur le papier plutôt qu'une goutte de son sang sur le terrain. Il rima contre Sophie une centaine de mauvais vers où il l'accusait d'avoir l'embonpoint de l'envie et où il la traitait de momie à la fin. Le correspondant du patriarche de Ferney n'était pas galant, mais aussi on l'avait accusé d'un si vilain péché. Les rieurs ne furent pas de son côté. Moins accommodant fut le prince des Nains, bafoué aussi par Lauragais. Il dégaina, lui qui, pourtant, n'avait pas la réputation du brave des braves. Il est vrai que la plaisanterie avait été un peu forte. C'était au mois de février de l'année 1774. Lauragais, qui arrivait d'Angleterre, trouve le prince des Nains régnant chez Sophie Arnoul. Le voilà furieux. « Cet homme m'ennuie cruellement, lui dit Sophie pour le consoler. « Mais j'ai beau faire, je ne puis m'en débarrasser. »« Je vous en débarrasserai, moi, » répondit Lauragais. Aussitôt, il assemble quatre docteurs de la faculté et gravement leur pose cette question. « Peut-on mourir d'ennui ?» Non moins gravement, les quatre docteurs délibèrent. Leur avis est que l'ennui rend les digestions difficiles, arrête la circulation des humeurs, engendre le marasme et, enfin, donne la mort. Muni de cette consultation signée et en bonne forme, Lauragais se rend chez un commissaire et dépose une plainte contre le prince des Nains qui, par son obsession continuelle autour de la demoiselle Arnoux, ferait infailliblement mourir d'ennui cette actrice, sujet précieux pour le public, et dont, en son particulier, il désire fort la conservation. De plus, il requiert qu'il soit enjoint audit prince de s'abstenir de toute visite chez ladite actrice, sa présence devant la tuer certainement, suivant la décision de la faculté. Le mystifié demanda raison. On se battit, mais si adroit ou si maladroit furent les adversaires, que, le soir même, ils soupaient ensemble chez Sophie Arnoux. Cette aventure burlesque n'ajouta que fort peu au ridicule du prince. Sa réputation était faite. Il y avait longtemps que le marquis de Bièvre l'avait surnommé « le prince des nains ». Amant ou mari, sa destinée était d'être trompée. Si Lauragais le chassait de chez Sophie, le chevalier de Coigny le remplaçait près de sa femme, au su et vu de tout Paris. C'était en son temps un piètre et désagréable seigneur que monsieur le prince des nains. Sottement orgueilleux, grossièrement impertinent, insupportable de fatuité et d'exigence, il a tous les vices de la noblesse du XVIIIe siècle sans en avoir les qualités brillantes, la légèreté, l'élégance, l'esprit. Chez Sophie, dont il resta l'amant longtemps encore après la plaisanterie de Lauragais, il se posait en tyran et prétendait faire la loi. Témoin sa querelle avec Luke, querelle qui ne fut pas sans influence sur les destinées de Sophie à l'opéra. Gluck faisait répéter un rôle à Mademoiselle Arnoux en présence d'une vingtaine de personnes lorsqu'entra le prince des nains. Cette nombreuse compagnie chez sa maîtresse déplut au grand seigneur et il eut le mauvais goût de faire tomber tout le poids de sa mauvaise humeur sur la musique et sur le compositeur. Blessé au vif, Gluck resta sur sa chaise et affecta de ne faire aucune attention au prince, sur quoi celui-ci, s'avançant vers le compositeur, lui dit du ton le plus impertinent « L'usage en France est de se lever lorsque quelqu'un entre, surtout un homme de considération. » Gluck, n'y tenant plus, se leva et venant au prince « L'usage en Allemagne, répondit-il, est de ne se lever que pour les gens qu'on estime. » Et pendant que M. Desnains balbutiait quelques injures, le compositeur se retourna vers Mademoiselle Arnoux. « Puisque vous n'êtes pas maîtresse chez vous, dit-il, je pars et ne reviens plus. » Mais ce tyran si farouche devenait étrangement soumis lorsque sa maîtresse le voulait ainsi. Sophie le traitait plus que cavalièrement. Veut-elle, par exemple, faire porter un chapeau à Versailles, elle regarde alternativement son coiffeur et le prince, et d'une voix nonchalante, elle demande « Qui est-ce qui marche aujourd'hui ?» Commissionnaire ordinaire de Sophie, le prince des nains marchait toujours. C'était le plus clair de ses bénéfices d'amant en titre. Au moins, avait-il pris au sérieux son rôle de protecteur. Quoi qu'il arrive, Sophie peut compter sur lui. Est-elle attaquée ? Il la défend. Il se met en avant en toutes circonstances. Son nom, sa fortune, son influence sont à la dévotion de sa maîtresse. Veut-on, par exemple, donner à Rosalie Levasseur, qui chante tous les soirs, la loge de Sophie presque retirée du théâtre, le prince des nains s'enflamme et menace de coups de bâton les directeurs de l'opéra. Les directeurs ont peur et Sophie garde sa loge en dépit de Gluck et du comte Merci d'Argenteau. Plus tard, à l'instigation de sa maîtresse, alors amie déterminée de Mademoiselle Raucourt, il se mêle aux tristes querelles de la Comédie française. Il prend parti pour Madame Vestris avec le duc de Duras contre les demoiselles de Saint-Val et le public. À ce jeu, il ne gagne que des épigrammes, celle-ci, entre autres éditions, revue et augmentée du mot du marquis de Bièvre. « Depuis qu'auprès de ta catin, tu fais un rôle des plus minces, tu n'es plus le prince des nains, mais seulement le nain des princes. » Ces quatre vers cinglèrent comme autant de coups de fouet la vanité du grand seigneur. Il se plaignit au comte d'Artois, dont il commandait les gardes, et obtint un ordre d'exil contre le poète, assez hardi pour attaquer le prince des nains et sa maîtresse. Cet audacieux était Champcenet. Fort compromis déjà par certains Noëls contre la cour, il allait être emprisonné lorsque son quatrain circula. Cependant, il s'en prit à Sophie de son malheur et resta depuis le plus acharné de ses ennemis. Après l'Auragais, avant le prince des nains, il est un homme encore qui tient une large place dans l'existence si agitée de Sophie Arnoux. Ce n'est plus un grand seigneur, cette fois, c'est un petit bourgeois, directeur des menus, architecte d'un médiocre talent, Bélanger. Quitté 100 fois, il reparaît toujours. Survient-il quelque prince des nains, il doit s'effacer, on l'oublie. Mais on se souvient de lui aux heures de solitude et on le rappelle. Il est l'amant des interrègnes. C'est en 1771 que Bélanger fut admis chez Mademoiselle Arnoux. Il était jeune, aimable, il était son égal, elle était lasse de tant d'amour vénal, elle se prit pour lui d'une belle passion, si désintéressée qu'il fut, lui, accusé de cupidité. Ce roman d'une heure fut pour Sophie comme un regain de jeunesse, un beau revenez-y de son printemps, un nouvel épanouissement de cœur. Un instant, elle y fut prise, et sérieusement, elle songea à quitter sa vie turbulente pour épouser ce petit bourgeois qui ne demandait pas mieux. Mademoiselle Arnoux, après s'être égayée aux dépens de tant d'autres, vient de fournir matière aux rieurs par le mariage le plus sot. Ainsi s'exprime Bachaumont, et comme lui, tout Paris crut à ce mariage. On cria à la mésalliance, une reine de l'opéra, épouser un architecte, quelle chute affreuse! Ce n'était qu'un faux bruit que Sophie avait fait courir pour occuper les sots, disait-elle. En réalité, pour imposer silence à ceux qui parlaient trop haut de son amitié pour Mademoiselle Raucourt, la plus compromettante des amies. Elle laissa donc croire assez longtemps qu'elle était devenue Madame Bélanger et ne se fâcha pas des plaisanteries que lui attirait son nouvel état dans le monde. Quand on lui demandait ce qu'elle comptait faire de cet architecte, « Il utilisera, répondait-elle, les pierres qu'on lance dans mon jardin. » Bélanger ne se contenta pas d'utiliser les pierres, il mit tous ses soins à les écarter. Sophie n'eut jamais un ami plus dévoué que ce mari de comédie. Le secret connu, il resta son défenseur et son conseiller, veillant sur elle de près ou de loin. Intendant de sa fortune et de sa gloire, il empêchait d'emprunter à trop gros intérêts, il lui organisait des triomphes au théâtre, il défendait sa réputation l'épée à la main. Il voulut faire plus, il rêva un temple pour sa divinité, véritable rêve d'architecte. Chassé de son hôtel de la rue des Petits Champs par l'incendie de l'opéra, Sophie s'était réfugiée dans un appartement de la rue Caumartin et elle s'y trouvait à l'étroit. Bélanger résolut de lui bâtir une demeure plus merveilleuse encore que le palais de Mademoiselle Guimard, ce palais des mille et une nuits. Il se mit à l'œuvre et fit merveille. Cet hôtel était un éblouissement, tout de marbre et d'or, avec des peintures splendides, des jardins, des statues. Malheureusement, il n'exista jamais que sur le papier. Bélanger bâtissait en Espagne, Sophie s'y était prise trop tard, le pactole commençait à tarir dans son boudoir. Au moins, l'adversité ne chassa pas Bélanger. 15 ans plus tard, on le retrouve encore près de Sophie, faisant ménage avec elle. C'est vers ce temps qu'elle s'éprit de Florence, un des plus tristes acteurs de la comédie française. Bélanger fut jaloux. Lui qui, de si bonne grâce, s'était retiré devant tant de grands seigneurs, il entreprit de disputer aux comédiens le cœur toujours inconstant de sa maîtresse. Il se plaignit, il essuya des remontrances, il fit des scènes comme autrefois l'Auragais. Mais elle n'avait ni la même patience, ni le même amour. L'ingrate, pour le nouveau venu, elle congédia le vieil ami. Oui, elle lui écrivit pour lui signifier de ne plus remettre les pieds chez elle. Que fait Bélanger alors? Il met sous un nouveau pli la lettre qu'il vient de recevoir, lettre qui ne porte pas de nom, et il expédie à Florence. Et c'est Florence qui se croit congédiée et qui n'ose reparaître. Et quand, enfin, le quiproquo s'explique, la fantaisie de Sophie est passée, elle rit du bon tour et Bélanger triomphe. De cette aventure, André de Murville fit une mauvaise pièce. « Mon compte rendu, » disait Sophie. Ce Murville, auteur dramatique de peu de succès, était depuis plusieurs années le gendre de Mademoiselle Arnoux. Il avait épousé une fille de l'amour de l'Auragais, Alexandrine, la plus rousse des blondes, qui avait un peu de l'esprit de Sophie. C'est elle qui répondait, lorsqu'on lui demandait l'âge de sa mère, « Je ne saurais vous le dire, mais comme tous les ans elle rajeunit d'une année, je ne tarderai pas à être plus vieille qu'elle. » On disait que, pour arriver au cœur de la fille, Murville avait traversé le cœur de la mère. Il fut au moins un de ses protégés. Pour lui, elle se brouilla avec la harpe bébé qu'elle fit menacer d'une correction à coups de plume de hêtre. Puis elle lui fit ouvrir les portes de la Comédie-Française et passa pour avoir mis du sien dans la première pièce qu'il fit jouer, le rendez-vous du mari. Cette pièce n'eut aucun succès et c'est vainement qu'on y chercherait l'empreinte de l'esprit de Sophie. Marié à Alexandrine, Murville resta le commensal assidu de Mademoiselle Arnoux. Il avait pour mission de célébrer les mérites infinis de la maîtresse de la maison. Il composait des madrigaux, il improvisait des quatrains pour les portraits et pour les bus, répondait aux épigrammes, faisait en un mot tout ce qui concernait son état de courtisan, de poète et de gendre. S'agissait-il de fêter la patronne de Sophie, Sainte-Anne, vite pour le décès, il a découplé de circonstances sur l'air de « qui, par fortune, trouvera nymphe dans la prairie ?» Le temps cruel qui détruit tout respectera Sophie. Par son pouvoir, le dieu du goût prolongera sa vie. Le charme de ses 12 accents nous la rendra nouvelle. On répétera dans 20 ans, c'est elle, toujours elle. Voilà comme chantait le plus galant des gendres, et sur sa parole, Sophie n'était peut-être pas très loin de croire qu'en effet, elle n'avait rien à craindre des atteintes du temps cruel. Elle en était venue à ne douter de rien, tant sa fortune avait été inouïe, incroyable. Il est une heure dans la vie où elle plane au-dessus des nuages. Ce n'est plus une reine, c'est une idole, elle voit le monde à ses genoux. Amis et ennemis n'ont pas assez d'encens pour elle. Ceux qui ne l'adorent pas pour sa beauté, pour ses talents, pour toutes ses séductions, redoutent son esprit, cet esprit terrible qui tue son homme plus sûrement que le coup de poignard. Malheureusement, tant de prospérité lui donne le vertige. Elle ne prévoit pas que, plus haut est son piédestal, plus rude sera la chute. Elle se grise de toute sa puissance, elle devient insolente comme son bonheur. Elle ne redoute rien, toutes les audaces lui réussissent. Elle s'attaque à tout et à tous. Elle s'attaque au public, à ses amants, à ses amis, aux ministres, à la favorite même de Louis XV. On ferait un volume rien que de ses folies. Un soir, tout Paris est accouru pour l'entendre et pour l'applaudir, mais elle a déclaré qu'elle ne saurait chanter, elle est malade. Le rideau se lève et, au grand désappointement du public, c'est Mademoiselle de Beauménil qui remplace la sublime Arnoux. Alors, chacun dans la salle de déplorer la maladie de l'actrice adorée. Mais voilà que tout à coup, elle paraît en grande loge, en toilette de gala, escortée de la foule de ses courtisans. « Je viens, dit-elle, prendre une leçon de Beauménil. » Une telle plaisanterie en ce siècle barbare valait le fort l'évêque. Elle ne va pas en prison pourtant. Contre Sophie Arnoux, le duc de la Vrillière est sans courage. À peine risque-t-il une timide remontrance. Mais le public est moins galant que le ministre. Le public a été troublé dans ses plaisirs, on s'est moqué de lui, il se vengera. Une cabale s'organise pour châtier l'insolente. Le lendemain, le même public envahit la salle, public hostile, qui vient tout exprès pour huer Sophie, pour lui faire demander grâce. 20 projets. Elle est si belle, si touchante et sa voix, son jeu est si passionné, si émouvant, que tous les conjurés oublient leur rancune. Ils sont venus pour siffler à outrance, ils applaudissent avec fureur. Et cette soirée compte parmi les plus belles soirées de Sophie. Après le public de l'opéra, les directeurs de l'opéra. Elle se sait nécessaire, indispensable, elle en abuse. Elle leur fait payer cher les recettes qu'ils lui doivent. C'est tous les matins un caprice nouveau, une fantaisie imprévue. Elle veut ou elle ne veut pas, elle se retire et elle reparaît. On la croit décidée à ne plus jouer, on monte sans elle un opéra, elle revient juste à point pour réclamer le premier rôle, et voilà le tripot lyrique en révolte. Aujourd'hui, elle exige des appointements plus forts, demain, elle décide qu'elle ne jouera plus qu'au cachet. Et comme elle les traite, ces pauvres directeurs, quel dédain, quelle hauteur, quel mépris! Quand elle n'insurge pas contre eux l'opéra tout entier, elle les fait menacer de coups de bâton par quelqu'un de ses amants. Aussi, les directeurs de l'opéra sont-ils sans cesse à invoquer contre Sophie l'autorité du ministre, mais par ses amis, elle est plus influente qu'eux. Puis, elle se soucie bien des ministres, vraiment. On dirait à l'estime qu'elle leur marque qu'elle a pris leurs mesures. Il faut voir comme elle accueille les remontrances d'Amelot, qui s'était avisé de faire de la sévérité à l'opéra et ne réussissait guère. « Vous devez savoir, monseigneur, qu'il est plus facile de composer un parlement qu'un opéra. » C'est le mot de la Gabrielli, mais bien autrement cruel. Amelot, intendant de Bourgogne, lors des troubles de la magistrature, avait dissous et reconstitué le malheureux parlement de Dijon. Une autre fois, dans une lettre à l'abbé Théré, ce liquidateur de la banqueroute royale, c'est le gouvernement de Louis XV qu'elle attaque, en même temps qu'elle insulte à la misère publique. Lors du renouvellement du bail des fermes, le grand Haussoir, c'est ainsi qu'on avait surnommé l'abbé Théré, fit attribuer des pensions à la famille du Barry, à ses créatures, à un certain nombre d'artistes et de gens de lettres, et enfin à quelques comédiennes. Aussitôt, Sophie feint de croire qu'elle est portée sur la liste et elle écrit au ministre une lettre de remerciement. Forcée de grever la nation d'un impôt de 162 millions, vous avez cru devoir en réserver une légère partie pour le théâtre lyrique et pour les autres spectacles. Vous savez qu'une dose d'Allah, de Caillot et de Raucourt est un narcotique sûr pour calmer les opérations que vous lui faites subir à regret. Un chanteur, une danseuse sont des personnages essentiels en temps de paix. De là vient qu'un officier estropié arrache avec peine une pension modique. Elle est assignée sur le trésor royal, espèce de crible sous lequel il faut tendre longtemps la main avant de recueillir quelques gouttes d'eau. L'acteur est traité avec plus de magnificence. C'est à ce titre, sans doute, que je dois le prix flatteur dont vous honorez mon faible génie. Quelques équivoques d'un ton libre terminent cette lettre plus que hardie. Heureusement, l'abbé Théré est homme du monde, il entend la raillerie, dit Bachaumont, et ne se fâche pas pour quelques vérités. C'est sur le même ton badin qu'il répond à Sophie, car il lui répond pour la plus grande joie de la galerie. À Fontainebleau, Sophie court un danger plus sérieux, mais l'audace est plus grande aussi. Cette fois, c'est à la propre maîtresse du roi qu'elle manque, à la comtesse du Barry. Elle ne respectait pas les choses les plus respectables. Dans le premier moment, la comtesse se plaint et Louis le bien-aimé, qui ne se fâchait guère, entre dans une grande colère et décide que l'impertinente ira réfléchir 6 mois à l'hôpital. Déjà, elle est dans le carrosse et sur la route de la prison lorsque la du Barry est prise de remords. Elle était bonne fille, la comtesse. Elle arrache à Louis XV la grâce de la coupable et Sophie en est quitte pour la peur. Elle se souvient encore de cette aventure lorsqu'apprenant la mort de Louis XV et l'exil de Madame du Barry, elle dit, en s'adressant aux demoiselles de l'opéra, « Pleurons, mes sœurs, nous voilà orphelines de père et de mère. » Mais déjà, en 1774, l'étoile de Sophie est à son déclin. D'année en année, les illusions s'envolent. Une à une, la fortune lui reprend toutes les faveurs dont elle l'a comblée. Le flot de popularité qu'il a élevé se retire d'elle. Le premier revers de Sophie Arnoux remonte à 1766. C'était un avertissement, elle ne songea pas à en tenir compte. Chutée dans Sylvie, elle fut forcée d'abandonner ce rôle qui avait été son triomphe à Mademoiselle de Beauménil. Mais ce n'était rien encore. On supportait à peine Mademoiselle de Beauménil et tout haut, on regrettait Sophie. 2 ans plus tard, elle eut la malencontreuse idée de prendre le rôle de Colette, du devin du village. Elle y fut détestable, de l'avis même de ses amis. Pour la seconde fois, elle entendit le bruit discordant des sifflets. Le ridicule ballet d'Adèle de Ponthieu, en 1772, vint hâter sa décadence. On commença à trouver qu'elle vieillissait. On le lui dit cruellement, et lorsqu'en 1773, elle fit tirer un feu d'artifice sous ses fenêtres, dans le jardin du Palais Royal, en l'honneur de la naissance du duc de Valois, 1000 épigrammes méchantes circulèrent. Armide allume encore des feux, mais ce sont des feux d'artifice. Elle croyait pouvoir lutter encore, elle lutta. Mais, hélas, elle avait perdu l'exquise fraîcheur de sa voix, sa beauté s'effeuillait. À semer des épigrammes, elle avait récolté bon nombre d'ennemis. Ses ennemis se levaient en foule contre elle. Ils voyaient approcher le jour de la revanche. On commençait à tout lui contester, talent, esprit, beauté. « Quelle femme habile !» dit une gazette du temps. « Laide, elle a su, à force de mine, se faire une réputation de beauté. En chantant sans voix la plus détestable musique de l'Europe, elle a acquis la renommée d'une illustre chanteuse. Sans esprit, elle passe pour spirituelle grâce à l'esprit de ses amis. » Que répondre à cela ? Elle s'irritait et faisait feu de toute l'artillerie de son esprit, mais les attaques n'en devenaient que plus vives. Dans un dégoûtant pamphlet, « Les animaux rares de la foire », elle est indignement maltraitée. Voilà ce qu'on disait. La demoiselle Arnoux fait voir une bête très méchante qui se jette sur tout le monde indistinctement et que rien ne peut apprivoiser. Cet animal est déjà vieux, mais il n'en est pas moins féroce. Heureusement, il a perdu ses dents, ce qui fait qu'il n'y a de risque que pour ceux qui sont touchés par son venin et aussi un peu par son odeur. À l'opéra, elle avait tout le monde contre elle. Comme elle avait compté ses triomphes, elle pouvait compter ses chutes. Quelle joie pour ses rivales ! Elle les avait tant humiliées jadis. Il n'en était pas une qui ne saignât encore de quelques morsures. Depuis Mademoiselle Durancy, à qui elle criait en voyant un chien « Tiens, voici le coureur de ton amant !» jusqu'aux plus humbles figurantes, aux violettes, aux jacinthes, aux roses, dont elle disait « Quelle plate-bande !» Elle n'était plus reine à l'opéra. Rameau était mort. « Nous avons perdu, avait-elle dit, notre plus beau Rameau. » Hélas, oui, Gluck triomphait, et avec Gluck, Rosalie Levasseur, la maîtresse du comte Merci d'Argenteau, l'ennemi juré de Sophie Arnoux. Gluck devait pourtant une bonne partie de sa gloire à Sophie. Dans Orphée, elle avait été sublime, elle était admirable encore dans Iphigénie. Aussi, il lui avait promis le rôle d'Alceste, écrit à Vienne en 1764, pour la divine Antonia. Eh bien, ce rôle fut enlevé à Sophie. Il fut donné à Rosalie Levasseur. Gluck, sujet autrichien, devait bien cela à la maîtresse de l'ambassadeur d'Autriche. Puis le compositeur avait contre Sophie une vieille rancune. Il se souvenait d'avoir rencontré chez elle le prince des nains. Rosalie eut donc ce rôle d'Alceste et, pour comble de malheur, elle y fut très belle. Il fallait Mademoiselle Levasseur pour nous faire comprendre la musique du chevalier Gluck, écrit un critique. Comment peindre le désespoir de Sophie ? Elle le cacha même à ses amis. « Si elle a du succès, disait-elle de Rosalie, c'est qu'elle a la voix du peuple. » Ce mot, rapporté à Rosalie, alluma la guerre entre les deux rivales. Le surlendemain, à l'opéra, pendant un entr'acte, la salle fut inondée de petits papiers qui pleuvaient des loges supérieures. C'était un pamphlet ignoble contre Sophie. Elle eut la faiblesse d'y répondre, ne songeant pas qu'à cette guerre d'injures, elle perdait le reste de son prestige. Hérosine fut pour Sophie Arnoux le dernier sourire de la gloire, et c'est en vain que dans Euthyme et Lysis, elle espère contrebalancer le succès de Rosalie dans Alceste. Toute la cabale de Gluck se levait en masse dès qu'elle paraissait. Ainsi, elle est sifflée outrageusement dans Iphigénie, et lorsqu'elle en arrive à ce vers qu'Iphigénie adresse à Achille, « Vous brûlez que je sois parti !»« Oui, oui !» s'écrie le parterre ingrat. Courageuse jusqu'à la fin, elle opposa un soir tous ses amis aux glouquistes. Ce soir-là, elle triompha, mais le lendemain, elle fut huée, malgré la présence de la reine, qui pourtant, désireuse de sauver une humiliation à l'actrice, avait donné le signal des applaudissements. Mais, au moins, des amis et des partisans lui restent encore, et dans les années qui suivent, elle peut compter quelques belles journées. C'est à la vente de la collection de M. Randon de Boissé, par exemple. On mettait en vente un buste de Clairon, elle doubla l'enchère et personne n'osa surenchérir. Le buste lui est adjugé et toute l'assemblée, dit Grimm, applaudit à différentes reprises. Un anonyme lui envoie le quatrain suivant. Lorsqu'en t'applaudissant, déesse de la scène, tout Paris t'a cédé le buste de Clairon, il a connu les droits d'une sœur d'Apollon sous un portrait de Belpomène. Sophie devait tenir à ce bus, trophée d'une victoire, elle ne le garda pas. Larive le désirait, elle le fit porter chez lui avec une lettre qui commence ainsi. « Voici, mon cher Larive, le bus de Mademoiselle Clairon, dont vous m'avez prié de vous faire le sacrifice. Je dis sacrifice parce que c'en est un bien réel pour moi, vu la grande vénération que j'ai toujours eue pour les talents de cette actrice sublime. » En 1778, Sophie a un autre bonheur. Voltaire vient lui faire visite. Monsieur de Voltaire, dit Bachaumont, n'a pas daigné de se transporter chez les plus célèbres laïcs du jour. C'est ainsi que, le samedi saint, on l'a vu chez Mademoiselle Arnoux. On trouve dans les mémoires une douzaine de bons mots que Sophie dut adresser au patriarche de Ferney. J'aime mieux citer une version plus simple. Quand il entra, elle lui demanda la permission de l'embrasser, et lui, gracieusement, bien qu'avec une nuance de tristesse, C'est bien tard pour m'embrasser. Hélas, je n'ai plus de visage. » Bientôt, Sophie Arnoux reçut une autre visite, non pas glorieuse cette fois, mais funeste. Mademoiselle Raucourt vint lui demander l'hospitalité et aussi un peu sa protection. Ne consultant que son cœur, Sophie recueillit la naufragée et cette générosité fut le dernier coup pour sa renommée et pour sa popularité. Enveloppée dans les haines soulevées par l'actrice de la Comédie-Française, elle ne s'en releva jamais. Cette amitié lui est fatale. Mêlée aux querelles misérables de Mademoiselle Raucourt, elle est atteinte de toutes les éclaboussures. À ses ennemis se joignent les ennemis de sa protégée et les amis des deux Saint-Val et aussi tous les ennemis du duc de Duras et de Madame Vestris, toute une armée. Aussi est-ce un débordement d'injures et de calomnies, d'anecdotes et de pamphlets, de prose et de vers. N'est-ce pas un ami de Mademoiselle de Saint-Val cadette qui lui envoie ce sixain pour mettre au bas d'un bus de Mademoiselle Arnoux en vente chez un marchand ? Je veux que ce bus en 100 lieues figurant puisse pour 4 sous, hors de la plâtrière, passant chez nos neveux, du marquis au bourgeois, orner en même temps le muséum des rois et le portail de la salpêtrière. Peut-être est-ce pour le même bus qu'avaient été faits ces vers charmants. Ses grâces, ses talents ont illustré son nom, elle a su tout charmer jusqu'à la jalousie. Alcibiade en elle eut cru voir Aspasie, Maurice le couvreur et Gourville Ninon. Le crayon aussi s'en mêla. Une caricature du temps nous montre Mademoiselle Arnoux au pied de son confesseur, tandis que, dans un coin, Mademoiselle Raucourt s'arrache les cheveux. « Ne pleurez pas, belle Raucourt, dit la légende, qu'il serait assez difficile, par le temps de vertu qui court, de citer en entier. » Pour expliquer cette gravure, il faut dire qu'un instant, Sophie Arnoux parut tourner à la dévotion. Elle congédia les amants et prit un directeur. Mais elle se lassa bien vite du maigre et du cilice, elle revint à ses chansons en disant « Ces directeurs, c'est pire que les directeurs de l'opéra. » Veut-on savoir maintenant comment Mademoiselle Raucourt récompensa le dévouement de Sophie ? Écoutons Bachaumont. 7 janvier 1780. Par une ingratitude affreuse, malheureusement trop commune chez les femmes, Mademoiselle Raucourt, si accueillie depuis son retour, si fêtée, si prônée chez Mademoiselle Arnoux, a fini par lui enlever le prince des nains pour le mettre dans ses fers. Ainsi finit cette amitié si tendre. Mais Sophie avait eu bien d'autres malheurs. Il était dans sa destinée de vider, jusqu'à la lie, la coupe des humiliations. Les salons, comme le public de l'opéra, furent sans pitié pour cette voix mourante. À un concert chez le duc de Chartres, où elle chantait avec l'arrivée, Sophie Arnoux fut huée par les assistants, par les invités d'un prince du sang. Cela est incroyable, mais cela est ainsi. On oublia à ce point les convenances, on eut cette brutalité. Où donc est-elle cette politesse tant vantée du XVIIIe siècle ? Où donc est-il ce bon goût si raffiné ? La pauvre Sophie en appela de cette injustice. Ayant aperçu, la nuit, le duc et la duchesse qui se promenaient dans les jardins du Palais-Royal, elle dit pour eux « Son grand air de vertu népomone, et le prince et sa femme l'applaudirent comme elle avait été autrefois applaudie dans le même opéra. Enfin, elle en arriva à ne plus pouvoir même élever la voix. Un soir que tout Paris prenait le frais sous ses fenêtres, elle osa chanter le ravissant motif d'Iphigénie « Adieu, conservez dans votre âme !» Mais voilà que dans l'ombre, une voix forte s'éleva, qui lui répondit en faisant sonner lugubrement cette phrase d'Alceste « Caron t'appelle, entends sa voix !» Elle se tut, et ses ennemis s'emparèrent de cette plaisanterie cruelle. Ils la poursuivirent de ce récitatif funèbre jusque dans les coulisses de l'opéra. Enfin, en 1779, Sophie Arnoux se décida à prendre sa retraite. Elle se retirait avec 2000 livres de pension. On l'entendit rarement depuis. À l'opéra, pour deux ou trois représentations à bénéfice, à de rares concerts spirituels et encore sur quelques théâtres particuliers. C'en était fait de la chanteuse sublime, de la tragédienne passionnée. Cette voix enchanteresse était éteinte, l'instrument merveilleux était brisé.